Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV.
C'est vous qui représentez le système.
Hello.
Bonjour à tous, merci d'ouvrir bien grand votre antenne à Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Dallas a tout pile 40 ans, anniversaire aujourd'hui même de la première diffusion le 2 avril 1978 sur CBS. 357 épisodes de 45 minutes allaient bientôt suivre. Le maître étalon de la saga familiale à l'américaine. Du moins l'Amérique du pétrole, des dollars, des ranchs, des chapeaux de cow-boy, des héritiers et des self-made men qui s'affrontent immanquablement autour d'un verre de whisky. L'Amérique qui allait bientôt élire Ronald Reagan. Nous, Français, découvrons Dallas en 1981 grâce à TF1. La série s'est incrustée dans nos mémoires collectives, mais celle qui fut à la fois très regardée et en même temps conspuée s'avère aujourd'hui perçue assez différemment. Faut-il brûler Dallas? Telle était la question dans les années 80. Faut-il réhabiliter Dallas? Telle est la question des années 2000.
L'instant M. Sonia De Villers. Sur France Inter.
Je vous préviens les amis, nous n'avons que 20 minutes et pas 3 heures, même si c'est un sujet de thèse que je vous soumets. Bonjour à tous les deux. Romain Nigita, vous êtes notre docteur S-Série.
Bonjour
Sonia. Voilà, frottiez les mains, une spéciale Dallas. Hein, voilà. On vous avait déjà réunis tous les deux à l'occasion d'une spéciale Columbo. À vos côtés donc, Séverine Barthes. Bonjour Séverine.
Bonjour.
Maîtresse de conférence à la Sorbonne Nouvelle, membre du séisme, j'aime beaucoup ce nom, centre d'études des images et des sons médiatiques. Vous partagez votre temps, je l'avais déjà dit la dernière fois, entre la France et les États-Unis. Vous avez consacré une thèse à la rhétorique des grandes séries américaines de prime time. Ça tombe bien pour parler de Dallas. Renaud, l'idole de mon enfance, je l'écoutais pile à l'âge où j'allais dormir chez mes grands-parents le samedi soir et où j'avais le droit de regarder Dallas.
Après, je me suis regardé Dallas au feuilleton pourri dégueulasse. Ça fait frémir le populo de voir tous ces enfants salauds. Ces riches, un verre plein aux as, faire l'apologie du pognon, de l'ordurerie et de la crasse. Nous prennent vraiment pour des cons.
Voilà, vision tout en nuances de Dallas. Romain, c'était l'emblème de la série à abattre, Dallas.
Ah, complètement. Dallas est devenu synonyme de toutes les séries américaines dans les années 80. Et donc synonyme de les séries américaines sont vraiment des programmes à ne pas montrer au public français. Dans les années 60 et 70, il y avait énormément de séries américaines en prime time en France.
Oui.
On voyait des séries comme Les Envahisseurs, Les Incorruptibles, Alfred Hitchcock présente. On voyait Dallas. Et à la fin des années 80, il n'y a quasiment plus aucune série américaine en prime time en France. Il faudra attendre le milieu des années 90 avec Urgence sur France 2 et puis au début des années 2000, les experts sur TF1 pour que ça revienne. Mais il y a eu un quasi blackout parce que, d'un seul coup, diffuser des séries américaines en prime time, c'était diffuser un programme abêtissant qui montrait des valeurs qu'on ne voulait surtout pas exposer aux téléspectateurs français. Donc c'est vrai que Dallas a cristallisé une certaine haine pour les séries américaines.
C'est intéressant, hein, Séverine Barthes. En fait, la France n'a pas eu les droits en premier lieu de Dallas. Dallas est arrivé en Europe avant TF1.
Oui, certains Français privilégiés qui captaient les stations périphériques, comme on disait à l'époque, avaient pu voir Dallas, par exemple, sur Télé-Luxembourg. Ouais. Et c'est à la suite de ça que TF1, d'une certaine manière, prend le train en marche et se met à diffuser la série.
Mais c'est intéressant ce décalage, parce que aujourd'hui, il y a des chaînes qui diffusent même, on va dire, le jour de la diffusion américaine.
Voire même en simultané, voire en pleine nuit, voilà, sur OCS.
Voilà. Et à l'époque, non, il y a un vrai décalage entre ce qui se fait aux États-Unis et ce qui arrive en Europe.
Il y a un vrai décalage dans l'arrivée. Et aussi dans la manière dont ils achètent, puisqu'ils achètent en fait par lot d'épisodes finis alors que la série continue. Aujourd'hui, on signe une série et on s'engage à acheter les épisodes jusqu'à la fin de la production américaine. À l'époque, on achète par lot et quand on regarde dans les programmes télé de l'époque, par exemple, Dallas, le début, il y a écrit série en 13 épisodes. Puis ensuite, il y a écrit série en 100 épisodes quand ils ont acheté un deuxième lot.
C'est ça. Allez, Dallas, générique à la française. Romain Nigita, ceci n'est pas, je l'ai appris, J'avoue, il a fallu que j'attende toutes ces années pour apprendre que ceci n'est pas du tout le générique original.
Pas du tout, le générique original américain, ce n'est pas une chanson, ce n'est même pas la même mélodie. Et c'est une grande pratique qui commence à la fin des années 70 et surtout dans les années 80 en France, qui est de créer de toutes pièces des génériques français. C'est le cas pour Starsky et Hutch, c'est le cas pour l'agence Touriste qui garde la mélodie mais qui crée une chanson. C'est le cas pour la plupart des séries japonaises qu'on entend en Club Dorothée. Les chansons de Bernard Minet et d'Ariane ne sont absolument pas les génériques originaux japonais. Tout ça dans deux buts. Dans le but déjà de faire parler de la série, parce que du coup on a des artistes qui vont aller sur les plateaux de variété. Le fameux groupe Dallas qui chante la chanson Dallas va apparaître dans des émissions de variété. Et ça permet de vendre des disques aussi, tout simplement.
Bon, alors quand même, on va vous faire découvrir le générique original si vous étiez comme moi assez ignorant.
C'est tellement mieux,
peut-être. Moi, je suis assez nostalgique du générique à la française. Séverine Barthe, un mot quand même, la famille Ewing, famille multimillionnaire, une fortune dans le pétrole, tout ça, ça se passe au Texas, rappelons-le. La thématique de la saga familiale, c'est quelque chose qui est quand même un fil rouge dans la production américaine. On n'a pas attendu Dallas. Sauf que là, viennent s'agréger différents thèmes, finalement, de la mythologie américaine.
Oui, effectivement, on s'appuie sur la tradition de la saga familiale, une certaine tradition du western d'une certaine manière par le fait du Texas, d'une sorte de d'espace à conquérir, que ça soit le pétrole en tant que tel, parce qu'il faut pas oublier que le moment où Dallas arrive à l'antenne, c'est le moment du deuxième choc pétrolier. Il y a un embargo sur le pétrole arabe et tout ça rentre en résonance avec cette idée des États-Unis conquérants que nous on a traduit en France par cet impérialisme à la fois économique et culturel. C'est aussi une des explications du reflux de la programmation des séries américaines en France. Et puis aussi aux États-Unis, je trouve que avec Dallas, il y a une sorte de retour d'un genre qui s'était un petit peu effacé, de la série un peu rurale, c'est-à-dire cette série qui se passe dans le sud des États-Unis, qui avait connu son heure de gloire à la fin des années 60 et au début des années 70.
Avec quoi, par exemple ?
Alors, avec des séries qu'on connaît assez peu en France, mais qui sont Les Arpents Verts, Petit Conjunction, ce genre de choses, qui ont été arrêtées brutalement au début des années 70, qu'on a appelé la purge rurale de 1971, où même un acteur avait déclaré ils ont tué tout ce qu'il y avait un arbre, y compris la scie. Et donc, on avait supprimé toutes les séries qui se passaient dans le sud des États-Unis, dans ces grands espaces, les westerns, etc., pour les remplacer par des séries urbaines.
Admettez que Dallas, c'est justement une combinaison des deux. C'est-à-dire que les frères Ewing ont les deux pieds dans la terre, on les voit régulièrement en blue jeans avec le Stetson, et voire même les guêtres en cuir quand ils visitent le ranch. Et en même temps, il y a ces plans inoubliables au pied des buildings. On filme les rues, on filme les bagnoles, on filme les embouteillages. Il y a un univers très urbain aussi.
Oui, Dallas va faire quelque part une sorte de fusion des parce qu'on peut plus faire des séries comme dans les années 60, quand on est à la fin des années 70.
Alors Romain, ce qui est très intéressant, c'est que cette histoire de famille commence comme l'histoire en fait d'une rivalité entre deux familles. Et finalement, on l'a plutôt oublié parce que cette histoire de rivalité entre deux familles a été masquée par une histoire de rivalité entre deux frères.
En fait, Dallas, ça commence comme Roméo et Juliette, mais ça devient très vite Abel et Caïn.
D'accord.
Pour un peu simplifier, c'est-à-dire que le début
de la série... Qui sont les Montaigu? J'essaye de refaire Shakespeare.
Il y a la famille Ewing, qui est donc la famille de J.R. et de Bobby, et il y a la famille Barnes, qui est en fait la famille de Pamela, qui est donc la nouvelle femme de Bobby. C'est-à-dire que la série commence par Bobby qui revient dans sa famille en le présentant. Voilà, je viens d'épouser Pamela. Et il se trouve que c'est la fille de votre pire ennemi.
Alors, il va rester ce fameux Cliff Barnes, qui est donc le rejeton de cette famille ennemie.
Il va rester, c'est le seul qui va rester dans toute la série avec
JR. C'est ça, une animosité, alors vraiment une haine inextinguible entre les deux.
Inextinguible, même dans la nouvelle série qui ensuite sera diffusée à partir de 2012. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, au départ, on a Bobby le gentil et Cliff Barnes le méchant. Sauf que le vrai méchant qui va apparaître au fur et à mesure, qui n'est pas au départ central dans la série, c'est J.R.
C'est J.R. J.R., c'est le frère aîné de la famille Ewing. C'est lui qui, au départ, est supposé gérer et reprendre le business familial. Je vous fais écouter donc un extrait de Dallas. On y retrouve J.R. en face de sa femme, Sue Ellen. Vous allez voir, il y a tout.
Tu m'as étonné ce soir, tu n'as pas roulé sous la table.
Oh, je suis désolée de t'avoir déçu, mon chéri.
Pardon?
Bah, tu espérais bien me ridiculiser devant toute la famille pendant le dîner. Mais tu n'as pas pu. Je me suis tenue de façon correcte. J'ai été charmante, polie et sobre. Et tu ne m'enfermeras pas dans la clinique de ton ami.
Et qui m'en empêchera?
Bobby va me défendre. Il ne te laissera sûrement pas m'éliminer comme ça.
On ne compte pas trop là-dessus. Tu sais que j'arrive toujours à ce que je veux.
J.R., le méchant, Bobby, le gentil. C'est un peu comme ça que se divise toute la série. Le personnage de J.R., c'est quand même, c'est quelque chose que personne n'a oublié. Enfin, c'est montée de haine qu'on pouvait avoir devant la télévision quand on était gamin en se disant, mais il est infect. Il est infect de bout en bout.
C'est un salaud qui est devenu l'emblème de la série, un peu comme Dark Vador est l'emblème de Star Wars, bien plus que Luke Skywalker. Mmh. Et c'est quasiment une première à la télévision américaine qu'un méchant devient central. Et c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant un peu plus souvent à la télévision américaine avec des personnages comme Dr House, comme Dexter, comme Walter White dans Breaking Bad. Mm-hmm. Mais à l'époque, c'est vraiment la première fois qu'on a un méchant qui devient le héros, d'une certaine manière.
Séverine Barthe, est-ce que dans cet extrait, on peut entendre quelque chose de la façon dont se répartissent les rôles masculins et féminins dans Dallas? Parce que c'est un père très important, la famille Ewing. Et après, c'est une histoire de fils, c'est une histoire de fratrie. Où sont les femmes dans Dallas?
La femme la plus forte de la série, à mon sens, c'est Miss Ellie. Qui va défendre corps et âme le ranch.
C'est la mère de Bobby et JR, qui est vraiment une matriarche
dans la série, alors qu'effectivement ses brus vont être plus tourmentées, effacées. Elle a vraiment l'image d'une femme extrêmement forte. Elle représente aussi des valeurs relativement traditionnelles attachées aux femmes, notamment l'harmonie du foyer. Elle s'occupe du quotidien, etc. Mais quand même, elle est la seule à émerger réellement comme une figure d'opposition dans les schémas un petit peu narratifs d'opposition entre les différents personnages.
Alors, le fameux JR, et ben, à un moment, quelqu'un va chercher à l'abattre.
Qui est là?
Romain, peut-on aujourd'hui révéler à l'antenne de France Inter qui a tenté de tuer JR, ou est-ce qu'aujourd'hui encore on considère que c'est spoiler la série, comme on dit?
Je pense qu'on peut le révéler, même vous le révéler.
Si allez-y
vous c'était Christine qui était la maîtresse de JR, et à la limite on s'en fiche complètement, c'est tout le monde oublié qui était Christine. Mais ce qui est absolument dingue avec ce cliffhanger, ce qu'on appelle ça comme ça, un cliffhanger, un suspense en fin d'épisode et même là en fin de saison, c'est que c'est probablement le cliffhanger l'un des plus célèbres, voire le plus célèbre de toute l'histoire des séries télé. C'est un cliffhanger dont on a parlé lors de la campagne présidentielle aux États-Unis à l'époque, qui opposait Jimmy Carter à Ronald Reagan, puisque les républicains avaient carrément sorti des badges sur lesquels il était marqué « C'est un démocrate qui a tiré sur JR ». Et Jimmy Carter, pendant la campagne, a dû quasiment se défendre. Et lors d'un débat qui se tenait à Dallas, il a dit « Je suis venu à Dallas pour moi-même enquêter, pour découvrir qui a tiré sur JR ».
Mais c'est extraordinaire. Les démocrates accusés d'avoir assassiné JR, c'est-à-dire l'emblème finalement des républicains.
C'est un peu comme si Mélenchon devait parler de plus belle la vie lors d'une campagne présidentielle.
C'est absolument extraordinaire. Séverine Barthe, il faut dire qu'il y a eu deux points d'orgue absolument inoubliables dans Dallas. Il y a eu la tentative d'assassinat de JR. Il y a eu aussi la mort de Bobby, enfin plus précisément la mort de Bobby et son retour, extrait en version originale. Cette fois-ci, Pamela se réveille et qu'est-ce qu'elle découvre? Bobby.
Honey, what's the matter? You look like you just saw a ghost.
For a minute, I thought I did.
What are you talking about?
You? Oh, Bobby, it was awful. When I woke up, I thought that you were dead.
What?
I had a nightmare, a terrible nightmare.
Voilà, Pamela se réveille et elle découvre son mari. Son mari qui était mort. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité scénaristique absolument injustifiable, Séverine Barthe?
Alors, il faut remonter un petit peu dans le temps. À la fin de la saison 8, Patrick Duffy, qui joue Bobby Ewing, veut prendre un peu d'air. Il en a assez, il veut se consacrer à d'autres projets, etc. Donc, la décision est prise de le tuer. Saison 9, donc, Bobby est mort et toute la famille continue, on avance. Pamela, notamment, se remarie.
Et on parle d'une saison complète.
Oui, il y a 20 épisodes où il se passe plein de choses. Et puis, le public est pas très content, les audiences c'est un peu moyen, Patrick Duffy en dehors de Dallas ça marche pas tant que ça, donc on décide de réintégrer Bobby, sauf qu'il a été tué.
Ah.
Et donc là, on trouve une trouvaille scénaristique, on dit que en fait toute la saison a été un rêve, enfin un cauchemar.
Et donc c'est ça là, on vient
Pamela.
D'entendre Pamela qui se réveille.
D'entendre Pamela se réveille. Elle entend l'eau dans la douche. Nightmare. Elle s'est mariée la veille avec Marc. Donc elle se trouve seule dans le lit. Elle pense rejoindre Marc dans la douche.
Et c'est Bobby.
Et en fait c'est Bobby qui le regarde en lui disant bah qu'est-ce qu'il y a. Et là la saison s'arrête.
Séverine Barthes, ça serait quand même intéressant de revenir sur la façon que Dallas a eu de feuilletonner, finalement. Est-ce que ça a changé à la manière de feuilletonner, justement, à la télévision américaine ?
Alors là, il faut distinguer deux choses, qui est les programmes de journée et les programmes de soirée.
Alors Romain, c'est la grande spécialité de Romain.
Et oui, parce que il y a un problème en France, c'est qu'on dit souvent que Dallas et les Feux de l'amour, c'est la même chose, alors que pas du tout. En fait, aux États-Unis, ce qu'on appelle les soaps, c'est-à-dire ces feuilletons un peu à l'eau de rose romanesque, se répartissent de manière totalement différente. Il y a ce qu'on appelle d'abord les soaps de journée, qui sont diffusées quotidiennement. C'est les Feux de l'amour, c'était Santa Barbara, c'est Amour, Gloire et Beauté.
D'accord.
Ce sont des feuilletons qui se tournent tous les jours.
Oui.
Parce qu'on diffuse un épisode par jour et donc ils sont produits dans des conditions de production beaucoup plus proches du théâtre. C'est-à-dire que c'est entièrement en studio, il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux, c'est tourné à peu près du temps en vidéo. Donc c'est vrai que c'est des productions assez sommaires. C'est pour ça qu'on se gosse un peu quand on voit Les Feux de l'amour.
Alors que rien à voir avec Dallas. Là, c'est du prime time.
Dallas, c'est du prime time soap. C'est tourné exactement comme De Flic à Miami, comme Les Incorruptibles, comme à la Maison Blanche.
Beaucoup de moyens.
Les mêmes moyens que toutes les grandes séries, tournage en pellicule, des extérieurs, des équipes de scénaristes. On tourne un épisode par semaine.
Énormément de figurants.
Un par semaine. Mais c'est vrai que Dallas marque une première. C'est la première fois que je sens qu'on a un feuilleton soap en prime time. Et c'est aussi la première fois qu'on va voir ce type de série en France. Parce que les soaps de journée comme Les Feux de l'amour ou Amour, Gloire et Beauté.
À l'époque,
ne sont absolument pas diffusés en France. Et c'est pour ça qu'on reçoit Dallas comme un choc à la télévision française. C'est qu'on n'avait jamais vu ces séries romanesques et des grandes histoires de famille à la télé française. On n'avait vu que les westerns et que les séries policières jusque-là.
Séverine Barthes, un mot sur l'héritage justement de Dallas dans l'écriture télévisuelle de la série aux États-Unis.
En proposant ce feuilleton en première partie de soirée, Dallas va combattre une idée reçue qui est courante à la télévision américaine à cette époque-là, qui est que le public n'a pas de mémoire suffisante pour retenir les épisodes d'une semaine sur l'autre, et que ça explique pourquoi on a des séries bouclées à la Columbo, à la Starsky et Hutch, etc.
Bouclées, ça veut dire que chaque épisode peut se regarder dans n'importe quel ordre, c'est les histoires sont un milieu, une fin, voilà. Pas besoin de les regarder les uns après les autres.
Effectivement, alors que Dallas, alors au début c'est plutôt découpé et ensuite ça feuilletonne à mort, si je puis dire, mais ça prouve la fausseté de cette conception qu'avaient les gens dans les chaînes américaines de dire qu'il n'y avait pas assez de mémoire du public. Et donc on va se mettre à hybrider la forme du feuilleton avec des formes canoniques du type la série policière, la série médicale, qui jusqu'à présent fonctionnait de manière fermée, épisode par épisode. Ça va donner des séries policières avec donc des histoires bouclées chaque semaine et puis des arcs narratifs qui vont se déployer sur plusieurs épisodes. Il va y avoir une vie privée, éventuellement des personnages qui se poursuivent, etc. Et pour les Américains, c'est ce qui aboutit à ce qu'eux appellent, contrairement à nous, le deuxième âge d'or des séries télévisées, parce que nous, on le voit beaucoup plus tardivement en France. Ouais. Mais aux États-Unis, ce qu'on appelle le deuxième âge d'or des séries télévisées, ce sont ces séries feuilletons qui vont hybrider des formes classiques, canoniques et la forme du feuilleton.
C'est
ça. C'est ce qu'on connaît toujours aujourd'hui comme forme.
Et c'est ce qui va tuer le soap 10 ans plus tard. Puisqu'en effet, Dallas va donner naissance à beaucoup de séries qui vont tenter de la copier. Des séries comme Dynasty, comme Falcon Crest, qui vont en effet vraiment marquer les années 80. Sauf que tout ce genre tout entier s'arrête au début des années 90 pour une raison simple, qui est que les distributeurs et producteurs de ces séries, donc les grands studios comme Warner par exemple, se rendent compte que sur le second marché de la rediffusion, ces séries ne marchent absolument pas. C'est-à-dire que les gens qui ont vu une première fois la série en prime time n'ont pas envie de
n'ont aucun besoin de la revoir.
Une fois qu'ils savent ce qui va se passer, c'est pas comme une série policière dont on peut revoir des épisodes par-ci par-là, et donc ces séries perdent de leur valeur puisque c'est en
puisqu'on sait en fait, on sait ce que va devenir le personnage, on sait ce qui va arriver, il y a plus de suspense et du coup à la rediffusion, ça perd totalement de son intérêt.
Exactement, et c'est ces rediffusions qui permettent de rentabiliser ces séries. Donc ces grands studios se disent, nous, si on ne peut pas rentabiliser l'investissement dans ces séries, c'est plus la peine d'en produire.
Merci beaucoup à tous les deux. Dallas a donc 40 ans. Bon anniversaire, monsieur, madame Ewing et les enfants. C'est la fin de l'émission. Dans un instant, vous allez retrouver Ali Rebéi, le sandwich aujourd'hui dans Grand Bien Vous Fasse. Alors, est-ce que c'est le burger contre le jambon beurre? Je vous laisse écouter ça, ce sera juste après les infos.